repérage du bibliothécaire.
Bonjour Monsieur Benigno, comment allez-vous?
Bonjour Marc, bon chaudement, hein, même si ici on est relativement au frais, hein, on est chauffé par les bruits, mais en tout cas l'air est relativement frais.
Ouais, c'est vrai qu'on peut pas trop se plaindre.
Ouais, comparé à Paris par exemple.
Ouais, j'ai vu là tout à l'heure, je viens de regarder, ils ont annoncé 42 degrés à Paris. Ça va être, tu dois vivre dans la station de métro, pas ailleurs.
Oui, ou dans une station orbitale, mais bon, ça sera peut-être pour un futur proche.
Oui, d'accord. Et alors, cette sélection pour ça
des juillet.
Beau mois de juillet.
Juillet, ouais. Ou juillette, comme disent certains.
Juillette, ouais.
Alors, donc, dans ce mois, qui son nom d'ailleurs est un hommage à l'empereur, hein, à Jules, on a bien sûr une jolie sélection avec des beaux polars, comme d'habitude, et des romans d'amour, même un classique de l'érotisme et d'autres, mais je vais parler des trois livres qui sont tous d'une manière ou d'une autre dans le domaine de l'histoire. Et on va commencer par un roman que j'avais évoqué brièvement au moment où il avait été acheté, et maintenant il est disponible. C'est un roman d'une auteure ou autrice italienne qui s'appelle Francesca Melandri. C'est un livre qui s'appelle « Tous sauf moi ». Et c'est vraiment un livre, je dirais, important, même si ce terme est un petit peu galvaudé, parce que il raconte d'une manière très 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 bien ficelée, d'une manière très très fluide, et tout un pan de l'histoire italienne qui est un petit peu méconnu. Alors ça commence maintenant, donc en 2010, et quand une Italienne, une femme qui a autour de 40 ans, qui a déjà vécu un peu, et qui habite dans un quartier un tout petit peu limite, comment, qui commence à être un quartier légèrement marginal. À Rome, et trouve devant sa porte un garçon éthiopien, donc pas forcément à l'être italien, qui dit être à la recherche de son grand-père, qui se trouve être le père d'Ilaria. Donc, il se dit, mais comment mon père a pu avoir un gaillard comment mon grand-père, enfin comment mon père a pu avoir un garçon comme ça, un Éthiopien, et qu'est-ce qui s'est passé alors que lui, en principe, on savait rien. Et puis ça sert des points de départ à des allers-retours dans l'histoire où l'on va parler, on va découvrir pour ceux qui ne les connaissaient pas la conquête italienne de l'Éthiopie, parce que les Italiens ont eu aussi des colonies. Bon, il y a eu bien entendu la Libye et là en l'occurrence l'Éthiopie et l'Érythrée dans lesquelles ils ont fait des dégâts comme les autres, et voire parfois
pire. Ça a juste pas duré longtemps, c'est peut-être le seul avantage voilà, pour
mais et donc là on voit les rapports un peu complexes aussi, parce que les Italiens comme les Espagnols, justement on parlait l'autre jour, à différence par exemple du monde anglo-saxon, ils sont très très cruels, mais paradoxalement au niveau individuel il y a eu des liaisons, il y a eu des liens qui se sont établis entre des autochtones et des italien, mais il faut savoir que c'était l'époque, bien entendu, de Mussolini, donc en tout cas l'essor de tout cela, et il y a tout cet aspect de l'histoire italienne et les liens qui existent entre cette période-là et la période actuelle avec toute cette mouvance autour de Berlusconi et puis l'extrême droite italienne. Donc il y a tous ces éléments, puis l'accueil des migrants qui viennent d'Afrique, dont de ces pays-là qui ont été conquis par l'Italie à un moment donné. Donc il y a tous ces allers-retours dans l'histoire qui sont donnés de manière très intelligente, avec une bonne prose, une belle prose. Et je recommande ce livre pour connaître et l'histoire actuelle et l'histoire italienne de la période sombre. Donc « Tout sauf moi » de Francesca Melandri, avec les numéros 65830. Là, on était en Italie et en Afrique, et maintenant, on se rapproche un petit peu plus de chez nous, Et on va parler d'un deuxième livre qui concerne la Suisse, parce que c'est une biographie qui est en même temps un documentaire et légèrement romancé sur un personnage important au XVIe siècle, en Suisse et en Genève en particulier, qui est François Bonnivard. Alors, François Bonnivard est connu aussi sous un surnom qui a été donné aussi parce qu'il a vécu sa séjournée longuement dans cet endroit, qui est un endroit très joli, très visité actuellement, mais dont la visite s'effectuait de manière un peu différente à l'époque, et c'est les prisonniers de Chillon. Donc, c'était les châteaux de Chillon, et il a été prisonnier deux fois, d'ailleurs, au château de Chillon, c'est monsieur François Bonnivard, qui, à l'origine, était savoyard, qui était noble, bien sûr, et qui était prieur d'un monastère près de Genève. Et il a eu la mauvaise idée de se bagarrer avec les ducs de Savoie, qui était propriétaire du château de Chillon, et qui n'a pas hésité à mettre M. Bonnivard au frais. Et peut-être que s'il faisait 40 degrés, ça ne le dérangeait pas trop, à part s'il était enchaîné, bien sûr, ce qui était le cas. Et donc, après, il y a eu des événements un petit peu fous qui ont fait que, pour finir, il puisse sortir de là, s'échapper. Et puis, c'était bien évidemment l'époque de la Réforme. Alors, François Bonnivard vient à Genève et il s'établit. Et puis, il se voit attribuer des tâches qui concernent la documentation, l'histoire et la rédaction de ce que serait, ce qu'on considérait comme son grand classique, qui est une histoire de Genève très bien documentée, qu'il a rédigée en se basant sur les archives, sur les témoignages. En fait, un livre qui fait encore référence. Sauf que, en fait, un des buts de ces bouquins qu'on lui a donné à faire, c'était de prouver que les Savoyards n'avaient jamais été vraiment maîtres de Genève. Et le livre fini, il a resté à usage privé. Il n'a pas été publié à ce moment-là. Peut-être que ce n'était pas tout à fait exactement ce qu'ils attendaient, Calvin et compagnie. Mais Bonnivard reste quand même comme une référence dans ces domaines-là. Et un personnage extrêmement important à Genève. Puis il y a ce problème de Byron aussi sur le prisonnier de Chillon qui parle justement de François Bonnivard qui est mort donc en 1570.
On sait combien de jours il a fait de prison, combien d'années.
Il a été deux fois. Je crois qu'il a été quand même un certain temps. Je ne sais pas exactement combien, mais je crois que suffisamment pour lui donner à réfléchir, à éviter d'être une troisième. Mais alors les livres, donc c'est s'appelle Le prisonnier de Chillon. L'auteur c'est Anne Nochis et il est disponible avec les numéros 65 822. Donc là, d'Italie, la Genève. Et un troisième livre, pour finir, là, on ne parle pas tellement des polars et autres qui sont de toute façon très populaires. On va parler d'un livre qui est un documentaire, mais d'un auteur qui est un romancier aussi, un romancier israélien qui est décédé il y a une année, Amos Oz, de son vrai nom Amos Klausner. Oz veut dire, c'est pas les magiciens d'Oz, c'est Oz veut dire force en hébreu, en fait. Ça peut faire croire que c'est, il a mis ce pseudonyme à cause du magicien d'Oz. Bref, le livre dont on va parler s'appelle Cher fanatique, et c'est un livre bref, court, mais intense et très pertinent pour l'époque actuelle parce que, et Amos Oz, qui est toujours dans ses écrits, un partisan de la paix et en général et au Moyen-Orient en particulier, et de la coexistence entre les peuples, il fait trois essais où il fait une réflexion sur l'environnement géopolitique, Israël, la Palestine, le Moyen-Orient, et sur les différents fanatismes qui sont les causes de l'impossibilité de résoudre les conflits. Alors, il a de l'humour, il a de l'érudition, il a une belle plume, et il met à profit ses particularités pour rédiger ces trois beaux et pertinents articles sur la situation au Moyen-Orient, Israël, en Palestine, et les possibilités éventuelle des, espérons-les, une résolution du conflit. Donc c'est un livre très intéressant, bien écrit, bien pensé et agréable. Ça s'appelle « Chers fanatiques » et il est disponible au numéro 65836.
Est-ce que ça ne fait pas un petit peu antithèse avec le livre de Yasmina Kadra qui se passe en Israël où un médecin oui. doit réparer pendant toute une nuit, opérer plein de gens suite à un attentat suicide, etc. Et quand il rentre chez lui à 4h du matin, après je ne sais pas combien d'opérations, etc., il se rend compte que c'est sa femme qui a tué, qui a fait cet attentat suicide. Et en fait, il démontre par là que la solution, il n'y en a juste pas entre Israël, la Palestine et tous ses voisins. Quoi.
Alors, Amos Oz, en fait, qui vient d'une famille, d'ailleurs, qui était... sa famille, à lui, était ce qu'on appelle les sionismes révisionnistes. Il faut comprendre que ça veut dire que c'était le sionisme le plus dur. Hein. Mais lui, il a évolué vers, tout au long de sa vie, vers la compréhension, l'acceptation et la recherche de la paix, et surtout la conviction très profonde chez lui qu'il faut créer deux États, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut faire tout le monde ensemble, tout le monde est content, tout le monde est frère, mais pour lui, ça, c'est pas possible, compte tenu de l'histoire. Il y en a qui disent qu'il faut être intransigeant et puis détruire l'autre, et puis il dit tout simplement, un peu, là, si tu veux, il reprend ce qui est officiellement
ce qui existe
promu,
déjà un peu,
mais fait vraiment deux États, vraiment, et ce qui n'est pas, parce que lui, c'est un... Et c'est un lucide, mais pas forcément d'un optimisme absolu. Mm-hmm. Il sait que ça peut comporter des dangers, parce qu'une fois qu'il y aurait deux vrais États face à face, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Mais mm-hmm. il dit, ce n'est pas la question, ce n'est pas si c'est beau ou c'est pas beau, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas une deuxième alternative correcte, on va dire. Et c'est son avis. Et puis, il explique pourquoi. Et d'ailleurs, il a écrit un livre précédemment, un essai, bien que, bon, lui, je l'aime surtout comme romancier, comme écrivain des fictions, mais et aussi une belle autobiographie qui s'appelle « Une histoire d'amour et des ténèbres », qui est une magnifique autobiographie. Mais il y a un livre qui parle de cela, justement, dont le titre est très évocateur, qui s'appelle « Aidez-nous à divorcer ». Alors, ils prennent pour un divorce raisonné et à l'amiable, entre guillemets.
Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude des conflits.
Ah oui, de toute façon,
plus ou moins insolubles.
Lui, à différence d'autres qui sont venus, lui, il est né à Jérusalem, donc dans les années 30. Donc, il dit justement, en rigolant dans son essai, qu'il a une longue expérience de fanatisme de tous côtés. Parce qu'il est né là, au Noël. Donc, voilà pour ces trois livres. Parmi d'autres, il y a des livres beaucoup plus légers, bien entendu, dans cette sélection. Mais comme les livres plus légers, plus agréables, ça c'est
on les
télécharge plus facilement.
Voilà, tout à fait.
Parfois, il faut faire la lumière sur d'autres qui sont un petit peu moins invisibles. Voilà.
Et pour l'avenir, qu'est-ce qui est en chantier ?
Alors, en chantier, en production et en lecture, et bien sûr, comme toujours, il y a des belles surprises. Je vais en parler des deux, aussi un peu particulier. Un qui est un roman d'espionnage policier, mais un peu particulier, un peu spécial. Il faut savoir que ce livre, je l'ai lu, moi, bien avant le cher francophone, parce qu'il n'avait pas été traduit en français, alors qu'il avait été traduit en espagnol à Cuba. Pourquoi ? Parce que c'est le livre d'un russe, enfin d'un soviétique à l'époque, mais qui est un grand classique, c'est un grand auteur des romans de pionnage, à l'équivalent de tous ces Jean Le Carré ou autres, sauf qu'il était du mauvais côté, on va dire. Et il s'appelle Julian Semyonovitch Semenov, ou Semyonov, tu sais que la transcription du russe, c'est parfois un peu, ou des langues autres que les nôtres, que les latines, sont parfois un petit peu aléatoires. Et donc, moi, je l'ai lu en tant que Semyonov. Ici, il était, en français, on l'a transcrit en tant que Semenov. Bref, on va parler de Julian Semyonovitch. Et le livre, il s'appelle, dans sa version originale, 17 instants du printemps. Et ici, dans sa traduction française qui vient de paraître, on l'a appelé la taupe rouge, ce qui évidemment ce serait pas les noms qu'ils seraient donnés eux-mêmes, bien sûr, comme dans les titres, la taupe rouge, 17 instants de printemps. De quoi parle ce livre? Alors, il faut savoir que c'est basé en partie, hein, en partie sur des faits réels, mais c'est un roman de suspense, d'espionnage historique, et c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelait Maxime Isaïev, mais qui était connu sous le nom de Max von Stirlitz, parce que figure-toi que c'était un agent soviétique de l'ancêtre du KGB qui est devenu un haut gradé de l'armée allemande et qui était un agent des renseignements russes. Et qui, en tant que donc, haut gradé allemand, nazi, il a travaillé pour bien mot pour les renseignements soviétiques, mais entre autres pour contrer un projet qui avait un complot de certains officiers allemands qui voulaient faire donc négocier un arrangement avec les Américains et les Anglais au détriment des Russes à la fin de la guerre. Mmh. Donc l'une de ses tâches était d'empêcher cela. Donc là, le livre, il est haut, hein, un rebondissement, c'est assez bien écrit. Je dois dire que je n'ai pas lu la version française, j'ai lu la version espagnole, donc je ne sais pas comment ça a été traduit, mais j'espère que bien. Mais le livre, il est très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé à l'époque, bon j'avais 15 ans, et donc il vient de paraître, et puis il est en lecture maintenant chez nous, et ça donne une vision autre que ce livre dont on est habitué de ce type de romans, mais je pense que ça va intéresser bien de nos auditeurs et nos auditrices. Donc ça s'appelle en français « La taupe rouge », sous-titre « 17 instants du printemps » de Julian Semenov. Voilà, ça c'est pour un livre qui est en lecture. Et un autre livre qui est en prod déjà, qui est en train d'être fignolé pour partir en prod. Et c'est un livre qui est scientifique, ouais, parce qu'on parle peu des livres qu'on a dans le domaine scientifique, des vulgarisations, de la très 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 bonne vulgarisation scientifique. Et c'est d'un auteur d'origine indienne, mais naturalisé américain, qui s'appelle Siddhartha. Bon, Siddhartha, évidemment, c'est connoté, hein, comme le Bouddha. Siddhartha Mukherjee, et c'est un auteur d'origine indienne, je l'ai dit, qui est un médecin, biologiste, et cancérologue. Il est grand spécialiste, on va dire, en majuscule du cancer, mais il est aussi un spécialiste de la génétique. Et justement, ce livre s'appelle « Il était une fois le gène ». Et si l'on veut savoir tout sur l'histoire de la découverte de l'ADN, du gène, des modifications génétiques, de ce que ça fait, de ce qui est hérité, de ce qui n'est pas hérité, des maladies ou des particularités humaines qui dépendent de la génétique ou pas, en dehors de tout cliché et de toute fausse information qui circule parfois, il faut écouter, il faut lire ce livre qui est extrêmement bien fait, extrêmement bien documenté et extrêmement agréable à lire, ce qui n'est pas évident. Et lui, il réussit. C'est assez incroyable. Et puis, il mélange son histoire personnelle parce qu'il y a des problèmes aussi, une petite anomalie génétique dans sa famille. Et donc, il mélange son histoire personnelle avec toute l'histoire de la génétique et universelle. Et puis, c'est vraiment, ça se lit vraiment presque comme un roman policier. C'est excellent. Ça s'appelle « Il était une fois les gènes » de Siddhartha Mukherjee. Je pense qu'il sera bientôt disponible, en tout cas pour la liste du mois prochain.
On se réjouit.
Ouais. Voilà.
Et sur ta table, j'imagine que tu as plein de documents.
Alors, sur ma table, bien sûr, on a des choses, bien entendu. Alors, parmi les livres, et puis justement, comme on est dans, à peu près, dans toutes ces commémorations de l'homme sur la Lune, la première fois sur la Lune, et tous ces ruées vers l'espace qui continuent. Maintenant, on va aller sur Mars, et puis après, on ira vers des planètes peut-être plus fraîches, évidemment, et tout ce qui se passe. Donc, parmi les livres qui sont sortis dans tous ces mouvements, c'est un livre d'un Suisse, d'un scientifique suisse, suisse-italien, qui s'appelle Lucas Viglietti. Et Lucas Viglietti, il a... Donc lui-même, il est pilote, il a vécu aux États-Unis, enfin il était pilote d'un courrier, et il a tissé des liens, il est devenu très ami de tous les protagonistes des différents projets Apollo. Mm-hmm. Et il a décidé de les interviewer, de les rencontrer plusieurs fois, et il a écrit un livre très détaillé avec toutes ces personnes qui ont contribué au livre, qui s'appelle Apollo Confidentiel. Et il y a tous ces personnages, chacun l'histoire personnelle de chacun, comment ça s'est déroulé, les différents projets Apollo, etc. Et donc c'est un très bon livre. Et on apprend plein de choses dans ce livre, notamment que les commandants de l'Apollo 11, il était dyslexique, par exemple. Parce que maintenant qu'on parle de ces choses-là. Le livre, il est sur ma table. Je pense que, étant donné les faits qu'on parle, la première fois que l'homme a foulé la Lune, et à part, bien sûr, ceux qui ont été envoyés par Jules Verne, mais ça, c'était une autre époque.
Ou par Hergé,
aussi, bien sûr. Mais donc, c'est un livre qui va vraiment intéresser toutes les personnes qui sont sensibles à la découverte spatiale et à toutes ces grandes aventures. Ça s'appelle Apollo Confidentiel de Lucas Viglietti. Ça, c'est un livre. Et puis, je voulais aussi faire un petit clin d'œil vers l'avenir, parce que parfois, on a la chance de recevoir par certains éditeurs suisses un service de presse des livres qui permettent
d'avoir un peu d'avance.
Et oui, de permettre à nos auditeurs d'avoir les livres, disons, pas trop éloignés du moment où ils sortent vraiment en format papier. Et il se trouve que parmi ces livres, il y en a un qui va sortir au mois d'août, fin août, début septembre peut-être, qui est publié dans les éditions Soe. Et c'est un livre qui a deux particularités. C'est qu'il a, il a gagné, il est l'auteur, les prix suisses de littérature, c'était un auteur suisse-allemand en 2017, mais aussi la particularité qu'il a été traduit par quelqu'un qui est aussi lectrice chez nous, par Camille Luchère, qui est aussi lectrice à la BSR, et qui est une très bonne traductrice de l'allemand vers le français. Donc le livre, il s'appelle « Révolution aux confins » de Annette Hug, c'est une auteure suisse-allemande qui vit à Zurich, et le livre est très intéressant. Et c'est un roman qui est à la fois un roman historique, mais aussi une réflexion sur, justement, l'écriture, la traduction même, parce que, les titres en allemand est peut-être plus parlant. Le livre en allemand est « Wilhelm Tell in Manila », donc « Guillaume Tell à Manille ». Et donc, pourquoi ? Parce que c'est l'histoire d'un gaillard, d'un jeune intellectuel des Philippines, qui s'appelle José Rizal, qui est un personnage historique, un héros national des Philippines, mais à l'époque c'est un jeune, qui va, part en Europe, on l'envoie étudier, surtout étudier, et puis aussi se faire oublier un petit peu, et il part en Europe, donc il va en Espagne, bien sûr, parce que c'était la métropole, enfin, faut savoir que les Philippines, quand on regarde les prénoms et les noms des Philippins, on se rend compte que, même s'ils parlent anglais, maintenant, il y a beaucoup de prénoms espagnols, hispaniques. Mmh. Et donc, c'était l'Espagne, les États-Unis. Et donc, il va, c'était au 19e siècle, bien sûr, il va en Espagne, en France, et il finit en Allemagne. Et en fait, il était chirurgien, opticien, il est spécialiste dans les traitements des maladies des yeux. Mais en même temps, c'est un intellectuel, un écrivain. Et son frère, qui est aux Philippines, lui demande de traduire. Il veut qu'on traduise du Schiller en Tagalog. Alors là, il faut trouver le Tagalog, donc la langue des Philippines, la langue originelle qu'on appelle le Filipino aussi, mais qui s'appelle le Tagalog. Et il va traduire. Alors, ce pauvre garçon qui doit apprendre l'allemand, parce qu'il apprend l'allemand en Allemagne, et il va traduire Guillaume Tell. Mais pourquoi s'il choisit Guillaume Tell de Schiller ? Parce que Guillaume Tell, et donc tu vois le clin d'œil, parce que Guillaume Tell, c'est la Suisse, mais en même temps, c'est écrit par l'allemand, et il faut l'écrire. La traduire dans une langue, le Tagalog, qui est une langue qui est la langue des Philippines, qui est essaye aussi de se donner d'avoir une indépendance par rapport donc les petits pays, les petites îles. Et donc c'est extrêmement bien fait parce qu'il y a des transpositions, mais non seulement comment il va traduire un mot, mais comment il va traduire une situation, ces montagnes, la neige, ces montagnes Guillaume Tell, donc les plaines des Grudli, comment il va transposer ça pour que ça se déroule dans un environnement que les Philippins vont comprendre, etc. Et c'est passionnant, c'est assez drôle, c'est fascinant. Et donc là, les livres... Alors, il n'existe pas, on va dire, entre guillemets, pas encore, il va sortir bientôt, mais c'est déjà une belle découverte pour l'avenir proche. Et il y a beaucoup de clins d'œil justement à ça, comment on comprend, comment on adapte l'histoire. Et puis même l'histoire elle-même de Guillaume Tell, tout ça, c'est raconté d'une manière assez passionnante, c'est drôle, mélangé justement à ce ressenti. Comment un Philippin qui est là ressent et comprend l'histoire de Guillaume Tell. Et donc ça, c'est, oui, je trouvais assez génial comme idée et puis comme manière de faire. Et puis, ce qui est intéressant, peut-être qu'on pourra discuter avec la traductrice, puis éventuellement avec l'auteur, si j'arrive à la voir, à Morges, cette idée d'aller du Philippin vers le Suisse allemand, enfin vers l'allemand, et puis après vers les Français en traduction, comment on la manière dont l'auteur a fait pour que, de ce que le personnage a fait et comment la traductrice doit rechercher tout ça pour le faire voir en français. Donc c'est un sacré péripétie. Donc voilà. Donc voilà, Révolution au confins d'Annette Hug et Hug, comment on dit exactement en allemand?
Hug.
Oui.
Ouais, Hug ou Hug.
Donc ça va, le livre sortira bientôt et dès qu'il sortira officiellement, on le fera lire.
Et on va en reparler sûrement, je
pense.
Bien
entendu.
En tout cas, j'espère que dans le cadre de du livre sur les plaies, du livre sur les quais à Morges, tu auras l'occasion de rencontrer des auteurs comme l'année passée.
On verra, on essaiera.
C'était bien.
On essaiera. Puis on profite pour dire justement, même si on va en reparler, bien sûr, le mois prochain qui est à septembre, oui. 7-8 septembre, il y aura un livre sur les quais, dont des lectures de la BSR, donc comme d'habitude, ouais. Il y aura d'autres activités, mais il y aura, comme toujours, nos 7 lectures, 2 dans le noir et 5 autres lectures très intéressantes, toutes variées et assez surprenantes parfois. Et on parlera.
Tu es en train de préparer les programmes,
oui,
etc.
Oui, oui, oui.
Donc je pense qu'on va en parler. On va essayer de faire paraître le BSR Actu à la toute fin du mois d'août.
Ouais.
Comme ça, on pourra donner un peu le programme et plus de détails.
Absolument.
À ce moment-là. Et vous le recevrez juste avant le livre sur les quais pour que vous puissiez faire votre choix.
Absolument. Alors, réservez ce week-end-là pour le livre sur les quais à Morges.
Absolument.
Voilà.
Merci, Benigno.
Merci à toi.